Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Donc nous sommes dimanche 29 mars, il est 8h15 du matin. Et vous êtes dans la version longue de ce message de ce dimanche et au menu ce matin. Nous allons prendre la suite de ce que nous avions vu la semaine dernière. On était dans la première épître aux Corinthiens, maintenant nous allons prendre le chapitre, nous avions vu le chapitre 5 et aujourd'hui c'est le chapitre 6, la moitié du chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6. Vous pouvez chercher dans vos Bibles. Toujours les Corinthiens, toujours ce message de reproche, que l'apôtre Paul a besoin de reprendre cette église et c'est pas des choses agréables à entendre. Et bon. On est quand même dans de bonnes conditions, nous ici, dans le confinement. Et on va essayer donc de profiter de ces temps, de ces messages pour méditer tranquillement la parole de Dieu. Et donc vous êtes dans la version cousue du message. On va prendre le temps, faire un message en 30 minutes. C'est beaucoup. Couper, beaucoup supprimer de pensées que l'on peut avoir en étudiant les textes. Et là, donc, on va avoir la version longue. Alors, on en a pour un petit moment. On peut se détendre. On va chanter, on va méditer pendant cette période. Peut-être, tout le monde de la maison est tranquille, les enfants sont calmes. Et, ou peut-être, il y a du bruit autour de vous, mais même du vacarme. Mais on peut s'isoler, on peut mettre le casque sur les oreilles et on y va. Lecture 1 Corinthiens 6, versets 1 à 12. Lorsque, je lis dans la version seconde 21. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander la justice devant les injustes? Demandez justice devant les injustes. Et non devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait absolument aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, devant des incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'être en procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, les homosexuels, pas même les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints. Vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Alors tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Déjà l'introduction, la semaine prochaine, ce dernier verset. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes? Regardez ça. Demander justice devant les injustes et non devant les saints. C'est le E de l'exposition du péché. Quand l'apôtre Paul reprend, il dit clairement ce qui ne va pas. Et dans l'église de Corinthe, les frères et sœurs sont en procès les uns contre les autres. On peut même comprendre qu'il y a plusieurs cas ou qu'il y a eu des cas passés et des cas présents. Comment imaginer que cela soit possible? Vous êtes peut-être outré avec l'apôtre Paul et pensez « Oh, ce texte ne nous concerne pas, Figeac. » On est loin de tout ça. En effet, la culture française n'aime pas les procès. C'est long, c'est cher, et puis c'est honteux d'exposer ses problèmes devant les tierces personnes. La culture allemande est très différente, paraît-il. Florent, un collègue qui a travaillé plusieurs années en Allemagne, qui m'a expliqué ça. Pour un oui, pour un non, on vous colle un procès. C'est presque un sport national. Et tout le monde a une assurance pour se protéger. Il y a 2000 ans, dans le monde gréco-romain, c'était un peu la même chose. Si vous connaissez le livre des Actes, chapitre 19, vous pouvez vous rappeler de cette histoire de l'émeute qu'il y avait eu à Éphèse, parce que les orfèvres voyaient d'un mauvais œil ces chrétiens qui jetaient au discrédit les idoles qu'ils étaient en train de fabriquer. Et ils se sont ameutés la population, ils se sont retrouvés au théâtre. Et là, le secrétaire leur a dit tranquillement, les a calmés, en leur rappelant qu'il y avait des jours d'audience, qu'il y avait des proconsuls, des magistrats. Et donc les protagonistes devaient s'appeler en justice les uns les autres. En effet, pourquoi se fâcher, se disputer? Les tribunaux sont là pour couper, pour trancher, pour établir la justice. Bon, ne soyons donc pas trop sévères envers les Corinthiens. N'oublions pas la lettre C de contexte. Ne disons pas « ce message ne nous concerne pas ». Mais écoutons ce que la parole de Dieu a à nous dire. Continuons. On va lire des versets 2 au début du verset 5. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous, Corinthiens, que le monde doit être jugé, êtes-vous incapables de rendre les jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante, les choses de cette vie, les choses du quotidien. Or, si vous avez des litiges concernant, pardon, or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas, que l'Église méprise. Je le dis à votre honte. Bon, il faut bien reconnaître que la parole de Dieu n'est pas contre les tribunaux et les magistrats. Ils sont là pour notre bien. C'est l'enseignement de Paul, Épître aux Romains chapitre 13. Et encore, dernièrement, on a regardé tout ça dans l'épître de Tite, où il nous était expressément recommandé d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Alors quel mal d'aller devant eux pour régler nos problèmes, direz-vous. Ben, il y a un problème. Il y a même un gros problème. La semaine dernière, on a vu qu'il y avait un gros problème avec la pratique d'inceste dans l'Église de Corinthe, cet homme qui vivait avec la femme de son père. Et le problème, c'est que les chrétiens sont saints. Ces Corinthiens qui avaient les deux pieds et les deux mains dans la boue du paganisme étaient tous saints. Et à Figeac aussi, malgré toutes nos imperfections, vous direz, on est bien à Figeac. Vous pouvez demander à Dédé, il vous expliquera plein de choses. Ben oui, malgré toutes nos imperfections, nous sommes saints. C'est quoi la sainteté finalement? Relisons un texte que nous avions pris déjà, nous avons commencé à l'automne, l'épître aux Corinthiens, et voici ce que nous lisons dans l'introduction. Formule habituelle de Paul, Paul appelé apôtre par Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et nous lisons, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, par appel, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Les saints sont appelés sanctifiés, non parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce que Dieu l'a fait. Le mot « église », vous le savez, en grec, se dit « ecclésia ». Ça se décompose en deux mots qui veut dire « appelé hors d'eux ». Et l'église est un rassemblement de personnes appelées hors du monde, par Dieu, et on peut y ajouter pour Dieu. Qu'est-ce que la sainteté dans l'ancienne alliance? Nous avons lu des passages de la loi la semaine dernière où l'Éternel disait à son peuple, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous amène pour en faire la conquête. Vous ne suivrez pas leur usage, vous pratiquerez mes ordonnances et les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois, mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Lévitique 18, versets 2 à 5. Une page plus loin. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois, vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Chapitre 20, versets 7 et 8. Vous vous sanctifierez, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Cette phrase est intéressante. C'est l'Éternel qui avait fait sortir le peuple qui était esclave d'Égypte. Et c'est l'Éternel qui allait forger ce peuple d'esclaves pour en faire une nation. En sortant d'Égypte, ils étaient incapables de quoi que ce soit, ne sachant rien faire d'autre que fabriquer des briques, planter les légumes et élever les chèvres. Leur préoccupation centrale, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et dans le désert, il va y avoir un changement de régime, à tous les sens du terme. L'Éternel va sanctifier son peuple. 40 ans plus tard, à la sortie du désert, ce n'est plus un peuple d'esclaves, c'est une armée en ordre de bataille, prête à conquérir la terre promise. En même temps, nous lisons, « Vous vous sanctifierez car je suis saint. » Et il y a un volontarisme qui est demandé aux Israélites en parallèle de l'action de Dieu au milieu d'eux. La sainteté dans la Nouvelle Alliance. En tant que croyants du Nouveau Testament, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Quoique les préceptes moraux du Lévitique, chapitres 18 et 20, sont toujours d'actualité, nous avons vu cela en détail la semaine dernière. Les chrétiens sont beaucoup plus que le peuple de Dieu. En Jésus-Christ, ils sont la famille de Dieu. Le niveau de sainteté auquel nous sommes appelés est beaucoup plus grand que ce pouvait être l'appel des Israélites de l'époque de Moïse. En effet, Jésus affirme sur le sermon de la montagne, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Pour nous, ce n'est pas Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, donner la loi, connu dans le désert pour faire de nous ce peuple. Ce n'est pas Moïse qui nous a exercé à la bataille, ni Josué qui nous installera dans la terre promise. C'est Jésus de Nazareth qui nous a délivrés par son sang de l'esclavage du péché. C'est lui qui nous donne sa loi d'amour. C'est lui qui nous donne la victoire et qui nous prépare une place auprès de lui dans la maison du Père. Premier repos ici pour nous. Je vous invite à tranquillement écouter le chant 634. Vous avez l'enregistrement, le MP3 dans la liste sous vos yeux. Le 634, savourez-le, et le 623, j'ai décidé. On peut se retrouver dans quelques minutes à votre convenance. Poursuivons maintenant sur ce thème de la sainteté. Les saints jugeront les hommes. Ne savez-vous pas que les saints jugeront les hommes? Il y aura un jour le grand jugement, et toute la Bible annonce cet événement. Et on y pense en ce moment, chacun, chacune, face à cette épidémie qui frappe le monde entier. Cette civilisation humaine qui semble un colosse au pied d'argile, en train de vaciller sur lui-même. Beaucoup voient dans ces événements les prémices d'un jugement à venir. Et Jésus n'a-t-il pas prévenu, l'évangile de Luc, qu'il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, il y aura des pestes et il y aura des famines. Le temps de revenir à Dieu est là, plus que jamais. Vous pensez peut-être à ce que Jésus a dit par rapport aux apôtres. Ils jugeront les 12 tribus d'Israël. Matthieu 19, 28. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Mais notre texte de ce matin nous apprend un fait inouï. Les saints jugeront le monde. Et les Corinthiens savaient cela. Et nous aussi, quelque part, nous le savons. Si nous relisons dans cette même épître aux Corinthiens, le chapitre 2, versets 15 et 16, l'apôtre Paul développe ce que est un homme spirituel, un homme conduit par l'Esprit de Dieu, un saint. Les choses de l'Esprit de Dieu sont une folie pour les personnes charnelles, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Notre texte affirme ce matin que nous jugerons le monde. Certes, ce sera sous la tutelle, la délégation de Jésus, bien évidemment. Mais nous avons la pensée de Christ. Et paradoxe, nous ne serions pas capables de nous entendre entre nous. Quelle image l'Église donne au monde lorsque nous nous disputons? Les enfants de Dieu habituellement méprisent le monde. C'est quelque chose avec lequel ils ne veulent pas se mêler. Mais les Corinthiens, en faisant appel au monde pour régler leur litige, se plaçaient en quelque sorte au-dessous du monde. Et c'est grave. C'est très grave. Concernant le jugement, lisons, 2e épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10, pour nous placer un petit peu dans ce contexte de jugement. 2 Pierre 2, 4 à 10. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais qu'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres la ville de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste habitué au milieu d'eux tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Les saints jugeront les hommes, les saints jugeront les âmes, les anges. Encore plus surprenant, à la lumière de ce texte, on peut penser qu'il s'agit des anges déchus. Mais l'apôtre Paul ne précise pas cela. Il y a quelque chose de fondamental que Robert Somerville, dans son commentaire, souligne ici. C'est que les anges ne sont pas des dieux. Ils ne peuvent pas être adorés, ce sont des créatures. Colossiens chapitre 2, verset 18, nous apprend que le culte des anges est une déviation. Et comme l'ensemble de la création, les anges seront jugés. Nous aussi, nous serons jugés. Les premières, personne n'a de doute, j'espère, là-dessus. Et nous avons lu cet automne les allusions à ce jugement au chapitre 3 et 4 de ce même épître. L'exécution du jugement. Entrons un petit peu plus dans le détail en lisant le psaume 149. Le psaume 149. Je lis dans la version seconde. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et avec l'harpe. Verset 4. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations et pour châtier les peuples. Pour lier leur roi avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. C'est une gloire pour le peuple de Dieu que un jour exercer ce jugement. On le voit ici, allongé sur le lit, en train de chanter les louanges, l'épée à double tranchant dans la main. Cette épée en double tranchant, bien sûr, évoque la parole de Dieu. La parole de Dieu. Avançons dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16. Une vision de l'apôtre Jean. Je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête avait plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et il les pétra avec une verge de fer. Il foulera le cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ce texte nous projette bien haut, derrière Jésus-Christ, à une place et une dignité que l'on ne peut concevoir ni exprimer. Et si nous avons saisi le destin qui nous attend, nous allons changer. Notre vie va changer. Nos pensées vont changer. Si nous portons les yeux vers le destin qui nous attend, nous allons changer. Deuxième pause, avec deux chants que j'ai choisi il y a peu de chants qui parlent de ces événements que nous venons d'évoquer ici à travers cet épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. J'ai choisi pour nous le 530, merveilleux chant. Il est un jour. Et le 221, chant de victoire et de triomphe. Il est Seigneur. Je vous laisse et je vous retrouve dans quelques instants. Alors, la suite de notre texte. On en était au verset 5. On avait vu la première partie. Je le dis à votre honte. Oui. Les Corinthiens doivent avoir bien honte de ceux, de leur conduite, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils font, de leur sainteté et de leur appel. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse servir, qui puisse juger, qui puisse servir d'arbitre, qui puisse faire médiation entre ses frères et sœurs lorsqu'il y a des litiges, des problèmes. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, un procès devant un tribunal, et cela devant des incroyants. C'est déjà un échec complet que d'avoir des procès les uns envers les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne souffrez-vous pas d'une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? C'est le S comme solution. L'apôtre Paul propose deux solutions aux Corinthiens. Trouver un médiateur parmi eux, un arbitre dans l'assemblée, un homme sage, un homme à qui on peut faire confiance pour rendre un jugement, pour trouver une voie médiane, pour trouver un arrangement amiable. C'est la solution du moindre mal. On sauve les meubles, les affaires restent dans la famille. Ça ne va pas sur la place publique. Première solution, trouver un médiateur. Deuxième solution, plus académique, se laisser dépouiller. Se laisser dépouiller selon les instructions du Seigneur lui-même. Avançons, reculons dans Matthieu chapitre 5, le sermon sur la montagne, ces textes fondateurs du christianisme, de l'essence du christianisme. Verset 38, Matthieu chapitre 5, verset 38. Une suite de recommandations que Jésus dit. C'était comme ça, moi je vous dis que, moi je vous dis que, moi je vous dis que, répète sans arrêt Jésus. Et ici, verset 38, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Il s'agit ici de la loi du talion, il s'agit de la justice qui est rendue par les tribunaux humains. Le œil pour œil, le dent pour dent, c'est un jugement qui soit juste par rapport à une offense. Ni trop sévère, ni pas assez sévère. Proportionnel à la faute et au tort subi. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prends ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, distance pour lui porter un sac, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Et on pourrait continuer. La loi de Christ. Si le dépouillement est la règle dans les relations des chrétiens extérieurs à l'Église, combien plus cela est-il valable à l'intérieur de l'Église, dans les relations entre frères et sœurs? Se laisser dépouiller. Deuxième solution. Paul ne recommande pas la discipline ecclésiale dans notre texte. On n'est pas comme dans le chapitre 5. Et on peut conclure de ça qu'il ne s'agit pas de discipliner à tour de bras. Le cas d'inceste du chapitre 5 avait ceci de remarquable. Il était sanctionné à la fois par la culture gréco-romaine et par la parole de Dieu. Mais dans le cas de procès entre frères, ici on peut imaginer que la lettre de Paul sera suffisante pour que la repentance ait lieu, que les plaintes soient retirées au tribunal et que tout rentre dans l'ordre. Et si cela n'était pas le cas, l'Église est maintenant parfaitement au fait de la façon dont elle doit agir, nommer un médiateur. Et on peut supposer l'exclusion en cas d'insoumission, ceci non pour détruire, mais pour pousser à la repentance le fautif et pour protéger l'Église. Est-ce comme solution? Chapitre, verset 8 de notre chapitre 6. Mais vous, au contraire, c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est à mort des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas, verset 9, que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs, n'hériteront du royaume de Dieu. C'est le R de la rupture. Une vraie rupture. Le vrai problème des Corinthiens n'était pas qu'ils allaient au tribunal pour régler leurs litiges. Le vrai problème des Corinthiens était qu'ils avaient des litiges entre eux. Ils étaient injustes les uns envers les autres. Ils se pillaient les uns les autres. Et Paul utilise la méthode forte ici. Il rafraîchit la mémoire des Corinthiens et la nôtre ce matin, avec une liste de choses incompatibles avec la citoyenneté céleste, avec l'identité de chrétien, incompatible avec une carte d'identité chrétienne. Et cette liste ratisse large, prenons le temps de la parcourir ensemble ce matin. On ne va pas revenir sur l'immoralité sexuelle, on en a parlé la semaine dernière. Bon, il y a le message qui est sur le site, vous pouvez le retrouver. Avançons à l'idolâtrie. C'est tout un sujet que l'idolâtrie. Rechercher sa satisfaction, sa sécurité en autre chose qu'en Dieu seul. L'idolâtrie se cache dans nos cœurs. Comment la démasquer, direz-vous concrètement? L'idolâtrie se manifeste surtout lorsque nous avons des difficultés et des épreuves dans nos vies. Lorsque nous sommes bousculés. Lorsque nous sommes secoués. Vers quoi ou vers qui allons-nous trouver du réconfort? Est-ce la TV? Est-ce les jeux? Est-ce le travail qui nous apaise? Regardez les infos à la télé. Est-ce la politique? Est-ce qu'on retrouve la paix dans les réseaux sociaux? Dans la famille, dans les amis? Et la liste est très longue. Chaque fois que l'on se réfugie ailleurs que dans le Seigneur, on a une attitude idolâtre. Cela revient à dire, le Seigneur ne peut pas me consoler, il ne peut pas me rassurer, il ne peut pas me faire du bien. Je cherche mon plaisir sans lui. Et c'est ainsi que fonctionne le monde. Être idolâtre, c'est avoir autre chose que Dieu au centre de sa vie. Il peut y avoir beaucoup de choses périphériques, mais au centre, Dieu n'est pas là. Dieu est en périphérie. Connaissez le Seigneur des Anneaux? Il y a un personnage dans le Seigneur des Anneaux, le Gollum. Le Gollum qui court après son précieux et qui se vautre dans les trucs, les marécages, les choses sales. Sont précieux. Il n'y a que ça qui compte pour lui. C'est un type de l'idolâtrie. Des adultères. Une personne adultère est un tricheur qui ne tient pas ses engagements, qui méprise l'amour de son conjoint, quelqu'un qui mène un double jeu, qui manipule les sentiments des autres, quelqu'un d'infâme finalement. Les travestis ou les efféminés, les mous. Les commentaires nous apprennent que c'est ainsi qu'on désignait celui qui jouait le rôle de la femme dans les relations homosexuelles. Rien de... On est dans tous ces sujets dans l'épître aux Corinthiens, pardon. Et le suivant, les homosexuels. L'homosexualité, c'est coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est ça le délit. On a lu ça dans les Lévitiques et dans deux fois, et c'était bien clair. Ces choses-là sont proscrites et on avait vu même le sens de cette prescription. Les voleurs, les cupides, chercher à avoir plus d'argent, ceux qui ne connaissent pas le contentement, ceux qui ont pour Dieu Mammon, et ce ne sont pas forcément ceux qui ont beaucoup d'argent. On peut être pauvre et cupide. On peut être prêt à tout pour l'argent. L'argent peut être au centre de notre vie, prenant la place de Dieu. C'est lui qui nous donne la sécurité. C'est lui qui nous assure notre avenir. C'est à lui qu'on doit ce qu'on a. L'argent, l'argent. Toujours en avoir plus. Les ivrognes ou les addicts. J'étends ici aux addictions parce qu'il y a plus, hélas, que l'ivrognerie de nos jours. Une addiction est une obligation de satisfaire à un besoin nuisible. les calomniateurs, les voleurs de réputation, les fabricants de fake news, les ravisseurs, les exploiteurs, ceux qui volent les âmes. Alors, on a une belle liste. Et on va maintenant regarder cette liste ensemble. Vous avez vos Bibles ouvertes. Ouvrez-la, si ce n'est pas encore le cas, parce que chapitre 9, je vais vous demander de prendre une minute pour regarder attentivement cette liste et pour piocher dans cette liste quel est de ces portraits de personnes qui ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Quelle est celle qui vous fait le plus horreur, celle qui vous semble le plus grave? Quel est-il? Lequel vous choisissez? Et choisissez aussi, parmi ces personnes, celui qui est le plus proche de vous, celui qui vous ressemble le plus ou à qui vous ressemblez le plus. Forcément, il y en a un pour lequel vous direz, ouais, si je devais être quelqu'un de cette liste, je serais plutôt cette personne-là que celle-là. Moi, ce serait celui-là. Prenez une minute pour le faire. Prenez votre temps. Verset 11. C'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais, les petits mais qui font toute la différence, mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus, par l'Esprit de notre Dieu. C'est le pays du positif. Pensez à cette personne qui vous a fait horreur. Pensez à cette personne qui vous ressemble. Lavez. Sanctifiez. Justifiez. Il n'y a pas de chronologie. Il faut prendre ça comme un package ici. Au nom du Seigneur Jésus. Tous ces faits-là, la sanctification, la justification, la purification, se sont passés dans le passé. Ça a été un moment donné du passé. Il y a des verbes dans le grec, l'aoriste, qui indiquent ça. Et c'est Christ qui l'a fait pour ces personnes-là. Il l'a fait aussi pour vous et il l'a fait aussi pour moi. Non parce qu'on était plus intéressants que les autres, mais il l'a fait à cause de son amour pour nous, au prix de son sang sur la croix de Golgotha. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ce qui a été fait par le passé. Ce qui concerne notre identité, pensez à votre identité. Je suis saint. Je suis de la famille de Dieu. Je suis chrétien. Je porte le nom de Christ. Je suis enfant de Dieu. Pensez à votre destinée. Évoquez la sainteté. Voilà. Évoquez la destinée. Juge du monde et des anges. Rien de moins. Avoir les pensées de Christ. Comment se débarrasser d'un vice, d'une addiction ou d'un péché? Ben avec quelque chose de meilleur. L'amour de Christ est meilleur que tout. C'est Christ qui rend la sexualité illicite sans saveur. C'est Christ qui transforme nos idoles en morceaux de bois pourris que l'on jette au feu. C'est Christ dont nos yeux ne peuvent se détacher. C'est Christ qui purifie nos désirs. C'est Christ qui fait que notre intérêt n'est plus tourné vers nous-mêmes, mais vers les autres. C'est Christ qui nous désaltère, qui nous désoiffe vraiment. C'est Christ qui anime notre bouche pour qu'il n'en sorte que des louanges à Dieu, que des paroles parfumées et agréables. C'est Christ qui nous pousse à offrir notre vie pour nos frères et sœurs. Voilà, on va s'arrêter là. Le verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne le laisserai pas dominer par quoi que ce soit, nous indique qu'il y a encore des choses que l'apôtre Paul veut nous enseigner. Dieu voulant, ce sera pour la semaine prochaine. En attendant, je vous propose de louer le Seigneur, de louer le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Choisis deux chants, il y a tellement de chants qu'on pourrait choisir. Vous avez peut-être des chants qui arrivent dans votre cœur, dans votre esprit. Bon, moi j'ai choisi le 37 pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Je veux te louer, Seigneur. Et puis, le 126, merveilleux, si merveilleux est l'amour de Dieu. Merveilleux, si merveilleux est notre Sauveur, Jésus-Christ. On va prier ensemble. Sentez-vous libre, à la fin de cette prière, d'ajouter la vôtre. De vous placer devant Dieu et de ouvrir votre cœur à lui et de dire tout. Il y a, vous savez, on peut se sentir bloqué par toutes ces choses dans nos vies parce qu'il y a quelque chose, on sait qu'il y a une culpabilité là. Il y a une culpabilité, il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer, quelque chose qu'on ne fait pas, dont on se sent prisonnier, coupable, et ça nous bloque dans notre vie chrétienne. On peut demander pardon au Seigneur, et on peut aller de l'avant. On ne pourra pas revenir en arrière, on ne pourra pas changer ce qui a été fait, il faudra peut-être vivre avec des conséquences, mais on peut se repentir, dire au Seigneur, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, avec des larmes. Seigneur, merci pour ce chemin du retour, merci pour cet appel glorieux. Merci pour ce que tu veux faire de nous. On ne mérite rien de tout ça. Oh, merci de nous associer à ta victoire, de nous avoir pris de l'Égypte, de nous avoir fait franchir cette mer rouge, de nous avoir mis loin du pays de l'esclavage, que nous ne pouvons même pas y retourner, de nous faire travailler dans ce désert de cette vie, sur notre terre où il y a des épreuves, où il y a toutes sortes de choses, où tu nous apprends que l'on doit dépendre de toi seul et de ta parole, et que tu es tout suffisant pour nous, que toutes nos habitudes du passé, tous ces trucs, soient évacués petit à petit, et pour que nous puissions de mieux en mieux te louer, de mieux en mieux t'adorer, de mieux en mieux avoir de la reconnaissance pour toi, de mieux en mieux avancer sur ce chemin de la sainteté, de la sanctification auquel tu nous appelles, et nous voulons nous lever et te suivre. Nous voulons te dire oui Seigneur, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Et plus que cela, nous avons devant nous cette terre promise, cette maison céleste, ce ciel ouvert. Alors, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. On te confie nos vies, on te confie notre Église, nos frères et sœurs, on te la confie telle qu'elle est. Tu vois ses faiblesses, tu vois nos faiblesses à chacun. Et montre-nous, si on se croit au-dessus des autres, Seigneur, éclaire-nous. Éclaire-nous, Seigneur. Fais-nous grâce. Dans le nom de Jésus. Amen.